Alors ce matin, bonjour. Je crois que vous avez une question qui est in.
Oui, et son corollaire immédiat.
Qui est out.
Bravo, vous connaissez votre Gainsbourg sur le bout des doigts. Est-ce que vous vous souvenez de la suite? Jusqu'à 9, c'est ok, tu es in. Après quoi, tu es KO. Tu es out. Ça, c'est idem pour la mode, le ciné, la mode et le cashbox. Et on ajoutera ce matin à ces paroles gainsbouriennes le référendum sur le Brexit britannique ainsi que les primaires à la présidentielle française. Commençons donc par la Grande-Bretagne. Plusieurs de vos quotidiens titrent ce matin à 3 jours du référendum sur l'état des forces en présence et surtout sur les conséquences attendues d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si les échos titrent in or out, l'opinion préfère une autre question toute britannique, elle aussi, to leave or not to leave. Or, on peut dire sans trop de risque de généralisation que la presse française a choisi son camp. Elle est majoritairement pour le in, opposé au Brexit. Ainsi, Le Monde propose-t-il une triple page de politique fiction intitulée « Si le Brexit nous était compté », récit qui débute le vendredi 24 juin à 6h07, soit au lendemain du vote. Une clameur retentit sur Trafalgar Square. Boris Johnson apparaît devant ses supporters en liesse qui agitent des Union Jack. La tignasse plus en bataille que jamais, le héros du Brexit fait le V churchillien de la victoire. S'ensuit une série de calamités, à commencer par l'effondrement des marchés. L'ex-maire de Londres devient Premier ministre. L'Écosse devient indépendante. Un sous-marin russe croise même dans les eaux britanniques. Et pour finir, devant cet effondrement systémique, eh bien Boris Johnson finit par demander à Westminster la suspension de la procédure de sortie de l'UE.
Eh bien.
Deuxième couche dans le cahier Écho, Le Monde prévient que la sortie de la Grande-Bretagne priverait la France de 0,2 à 0,4 points de PIB. Plus de précision dans l'opinion qui a chiffré le coût de l'aventure, un recul de 2,2 points de PIB dans une hypothèse moyenne pour le Royaume-Uni, recul qui pourrait aller jusqu'à 4,1 si l'on en croit l'hypothèse pessimiste. Guillaume Goubert tente, comme souvent, de temporiser dans son édito dans La Croix. Certes, un départ des Britanniques de l'Union européenne aurait de réels avantages, avant tout celui de ne plus devoir traiter avec un partenaire incommode qui n'arrête pas de se mettre hors jeu tout en voulant contrôler la partie. Mais les inconvénients de cette rupture seraient également considérables. Tempête boursière, ralentissement économique, effet d'entraînement sur d'autres membres grognons de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle un deux poids, deux mesures. On sera alors presque surpris de lire le point de vue de Michel Rocard et Nathalie Kosciusko-Morizet, toujours dans La Croix, tous deux plutôt enthousiastes à vrai dire à l'idée d'une sortie de la Grande-Bretagne. Pour Michel Rocard, les Britanniques sont un verrou négatif dans l'Union, notamment parce qu'ils ont un autre monde dans la tête, un monde marin, maritime, marchand et anglophone. Le Brexit permettrait de savoir si le verrou négatif sera enlevé. Moi, je n'y verrai que des avantages, écrit Michel Rocard, à condition que les Européens sachent en profiter. Tandis que NKM voit, elle, dans le Brexit, deux opportunités. Celle de forcer les dirigeants européens à construire l'Europe pour ses citoyens afin de remédier à son éloignement, et un événement dont la France pourrait se saisir pour assumer enfin le leadership politique et économique qu'elle peine à exercer. Bref, en attendant de savoir qui est in et qui est out, c'est comme le titre, l'édito du Figaro, le brouillard du Brexit qui prédomine.
Et du brouillard à l'enfumage, Nicolas Martin, il n'y a qu'un pas.
Absolument. L'expression syndicale idoine pour laquelle j'ai toujours éprouvé une petite affection, c'est l'enfumage de Terrier.
L'enfumage de Terrier.
C'est celui dont vous avez parlé avec vos invités tout à l'heure, Guillaume, celui de la primaire à gauche. L'opération concoctée avec l'Élysée vise à tirer François Hollande d'un mauvais pas, analyse Pierre Fréhel dans Le Républicain Lorrain. S'il sort vainqueur d'une micro-primaire radicale taillée à ses côtes et fixée à une date tardive, le chef de l'État aura au moins retrouvé une légitimité dans son camp. Ou encore Mathieu Verrier, pour qui, dans La Voix du Nord, comme Napoléon à Austerlitz, François Hollande profiterait du brouillard qui recouvre son camp pour surgir tel un soleil et surprendre l'adversaire. Sauf que ce brouillard peut s'avérer dangereux, estime Guillaume Tabar dans Le Figaro. Et s'il perdait, si un Montebourg, par exemple, parvenait à fédérer tous ceux qui ont été déçus, trahis, dégoûtés, lassés par Hollande, l'humiliation serait pire encore qu'une troisième place au premier tour de la présidentielle. Mais évidemment, si François Hollande prend ce risque, c'est qu'il fait le calcul inverse. Comme Nicolas Sarkozy, il fait le pari que c'est le noyau dur des militants qui se déplacera, celui où il garde encore le plus de soutien. Ce qui nous amène inéluctablement à la conclusion de Sébastien Lacroix dans l'Union. Ainsi donc, en politique, il ne faut s'étonner de rien. Les deux candidats dont les Français ne veulent plus ont toutes les chances de se retrouver face à face.
Et c'est pourquoi on nage en quelque sorte en plein brouillard politique, c'est ça Nicolas ?
Ajouter de la confusion au brouillamini idéologique. Ah. Les vrais programmes disparaissent derrière la cacophonie politique. La campagne se transforme en une espèce de pétaudière médiatique qui tiendrait davantage d'un jeu de télé-réalité que d'un débat démocratique. Voilà les conséquences, selon Jean-Marie Montali du Parisien, de la multiplication déraisonnable des candidats à la présidentielle. C'est la une du journal ce matin. Pourquoi tant de candidats ? Vous trouverez à l'intérieur, en page 2, une illustration assez délirante où des visages connus et inconnus s'agglutinent autour d'un manège sous le titre « Prêt à décrocher le pompon ». Alors on y voit entre autres les cadors, Marine Le Pen, Alain Juppé, ou Jean-Luc Mélenchon monté sur un cheval de bois, les tout à l'ego, Ramayade ou Geoffroy Didier dans une nacelle, eux, ou encore les originaux comme Jacques Cheminade dans une soucoupe volante.
Il y en a un autre dans les tout à l'ego, il y a Christian Troadec.
Voilà, il y a des gens...
Le mouvement Bretagne et Progrès.
Absolument.
Vous n'êtes pas breton, vous en fichez.
Il faut dire... Bon, bref, peu importe. Il faut dire qu'à la vue de ce graphique, on se dit bien que l'arène politique, à un an de la présidentielle, devient ou se transforme en asile de fous. Et c'est également ce que pense un membre du gouvernement, Mathias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur, qui a accordé une longue interview à Libération. Interview dans laquelle il déclare ceci. La présidentielle rend fous les hommes et les femmes politiques, ainsi qu'une bonne partie des journalistes, dont l'unique but est de trouver le prochain Dalaï Lama. Où est-il ? Est-il déjà né ? Arrive-t-il ? Toute notre vie politique est tournée autour d'un seul objectif, dégommer celui qui est en place. Nos institutions produisent malheureusement ce monde politique féodal qui fait que nos concitoyens ont l'impression que la Ve République, c'est Game of Thrones, si c'est un ministre qui le dit.